Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le réseau FM+, si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous hebdomadaire sur le 91 MHz, si vous êtes sur l'agglomération Montpellier-Rennes ou bien le 103.1 sur l'agglomération Nîmoise Radio Alliance Plus, et puis si vous êtes au-delà de ces frontières du Midi, www.fmplus.org, ou bien il suffit de nous retrouver sur Apple Store, ou oui, c'est surtout sur Apple Store, je crois que sur l'application iPhone, pour nous retrouver où que vous soyez avec votre smartphone. Voilà, on se retrouve donc pour continuer ensemble, méandre de l'amour, Eros et Agapé, des mots pour le dire. On s'était quitté la semaine dernière, Michel, sur amour et liens familiaux, donc c'était le chapitre que nous avions abordé de votre livre. Et puis on va continuer aujourd'hui. Alors bonjour Michel. Donc je vous tiens la main et je continue à vous suivre dans ces méandres où on découvre chaque fois de nouvelles alcôves.
Merci beaucoup. Bonjour Edouane. Bonjour à tous.
Donc la semaine dernière, on avait entamé le chapitre amour et liens familiaux. Alors pourquoi s'éloigner de la famille, de cette affection ? Et je voulais commencer donc par ces trois citation avant de vous céder la parole. La première, celle de Georges Feydeau, puisqu'on parle de l'affection de la famille. Alors Georges Feydeau, il dit « On peut changer d'affection, le cœur, ça se déplace ». Ensuite, Henri de Monterland qui dit « Toujours, quand l'affection commence, le drame commence ». Et enfin, Fernando Pessoa, « Rien ne pèse autant que l'affection d'autrui ».
Voilà, alors ce sont des citations qui problématise effectivement, me semble-t-il, les affections dites naturelles. Et à propos de Feydeau, nous l'évoquerons très bientôt dans cette réflexion. Alors, je rappelle que lors de la dernière émission, nous avons dit que la famille naturelle était sûrement une bonne chose, mais que dans certains cas, il était bon de s'en éloigner et de la remplacer, entre guillemets, par une nouvelle famille qui serait une famille spirituelle. Et j'avais cité la phrase de Jésus dans l'Évangile, « Celui qui vient à moi, vers moi sans haïr son père, sa mère, etc., ne peut pas être mon disciple », phrase extrêmement violente. Alors on peut se poser la question suivante. Pourquoi s'éloigner ainsi de la famille dite naturelle ? On a vu dans une émission précédente que l'amour durable doit se baser sur une harmonie des affinités et des caractères. Or, il est facile de comprendre que cette harmonie unit mieux les êtres, harmonie de caractère, que les liens du sang, parce que les liens du sang nous sont imposés et on n'y peut rien. J'ai cité le cas de Thérèse d'Esquerou chez Mauriac. Il est évident qu'elle ne peut rien partager avec son mari Bernard, car ils n'ont rien en commun, ni les intérêts, ni les aspirations, etc. Et d'ailleurs, Thérèse ne peut pas partager non plus quoi que ce soit avec sa belle famille, puisque sa belle famille la cantonne dans son rôle de mère, et sitôt qu'elle a un enfant, une petite fille, Thérèse ne compte plus. On voit par ailleurs dans tous les films du japonais Ozu, que j'aime beaucoup, dont un des principaux sujets est le délitement des liens familiaux, que ce ne sont pas les enfants biologiques qui aiment le mieux leurs parents, mais souvent ce que j'appellerais des enfants d'adoption, ou comme on dit trivialement, des pièces rapportées. Par exemple, dans le magnifique film « Voyage à Tokyo », qui est sorti en 1953 sur les écrans, celle qui comprend le mieux les deux vieux parents qui sont venus rendre visite à leurs enfants, c'est leur belle-fille, précisément, et non pas leurs enfants, je dirais, par le sang. Les enfants par le sang, ils sont dérangés par la présence de ces deux vieux parents, et ils ne leur manifestent qu'indifférence quand ce n'est pas hostilité. Vous voyez, or cela est absolument remarquable, ce transfert d'affection. Un remake allemand de ce film d'Ozu a été fait, qui s'appelle Cherry Blossom. Il est sorti en 2008, la réalisatrice en est Doris Dory, hein, et la conclusion en est la même. C'est une étrangère qui comprend le mieux le vieil homme, beaucoup mieux que ses propres enfants. Et c'est à elle d'ailleurs que cet homme-là va laisser symboliquement toute sa fortune avant de mourir. Et dans la dernière scène, la seule à comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette étrangère, et celle que les enfants interprètent avec la plus grande trivialité, hein, puisque c'est une pièce rapportée, hein, c'est une étrangère. Donc vous voyez, Redouane, grand est le mystère des affinités secrètes. Elles sont bien supérieures, ces affinités, aux liens du sang. Alors j'espère ne choquer personne. Je sais bien qu'il y a une partialité biologique. Je sais bien que on allègue toujours les fameux liens du sang. Mais je regrette, si avec les personnes qui nous sont proches par les liens du sang, on s'entend bien, eh bien je dirais tant mieux. Tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, alors je dirais, hélas, tant pis. Hein. Vous voyez, l'adoption me semble préférable. L'adoption par le caractère.
Voilà. Non, c'est un peu comme dans le film Gladiator, film d'action, où justement, oui, oui. C'est le fils de César qui tue son père. Hein, alors que l'affection que lui portait son chef de camp était beaucoup plus filiale.
Oui, oui, c'est là qu'il y a le dialogue entre Maximus, le général romain, hein, et puis Marc Aurèle, effectivement. Ah. Hein. Donc c'est un film de Ridley Scott. Oui, oui, à Rome, on adoptait, hein, précisément, et l'adoption valait paternité, en quelque sorte, valait transmission de l'héritage. Alors, nouveau point pour terminer cette réflexion sur les rapports entre amour et liens familiaux, amour et famille. Réfléchissons sur l'amour qui unit le couple lorsque surviennent des enfants, hein, dans ce couple. Alors, je me maintiendrai ici, évidemment, dans le cas du couple traditionnel hétérosexuel. Alors, je dirais que déjà, la fameuse transcendance familiale, biologique, donc totalement relayée par l'idéologie sociale, peut anéantir tout individu, quel qu'il soit, en le cantonnant au rôle de la perpétuation du sang. Alors le danger est grand de sa totale annihilation, de l'étouffement de ses aspirations les plus secrètes, vous voyez. Donc il y a un film de Ferreri, je crois qu'il s'appelait Ape Regina, hein, la reine des abeilles, où on voit le malheureux procréateur annihilé par sa femme et sa famille sitôt qu'il a procréé, vous voyez, il n'est plus rien, hein. Donc ça c'est tragique, hein. Le fait qu'il y ait cette transcendance du sang là, hein, et la nécessité de perpétuation de l'espèce. Je sais bien que chez les animaux, le seul but de leur vie, c'est de se perpétuer. Je le sais bien, hein. Mais l'homme n'est pas quand même un animal, ou n'est pas qu'un animal, hein. Donc il est capable d'aspirations spirituelles. Or, considérer un homme simplement comme celui qui va transmettre sa semence et perpétuer le lien familial, ça me semble un peu tragique. Je sais pas ce que vous en pensez, Redouane, mais je sais bien que cela fonctionne dans beaucoup de peuples, hein. Mais ça me semble quand même faire bon marché de l'individu.
Oui,
non,
c'est un peu ce qui s'est passé, par exemple, le drame des Indiens, un camp dans cette partie de l'Amérique latine, face aux conquistadors, c'est-à-dire ce malheur qui s'est abattu sur eux. À un moment donné, ils ont refusé de se perpétuer. C'est une sorte de suicide collectif. On ne donnait plus naissance. Voilà, il y a eu une sorte de d'impasse par rapport au futur. Et effectivement, l'animal ne peut pas faire ça.
Absolument.
C'est-à-dire, il ne peut pas se projeter. Voilà, il y a la maîtrise de son corps et de son désir.
L'animal, mais dans toutes les espèces vivantes, y compris les plantes, hein, les espèces animales, sauf l'homme, le seul but est la perpétuation de l'espèce. Par exemple, lorsqu'une plante manque d'eau, elle est en passe de mourir, alors elle fait ce que l'on appelle monter en graine. Elle monte en graine de façon à disséminer justement sa semence et à se perpétuer juste avant de mourir. C'est ça, monter en graine pour une plante. Hein. Quant aux animaux, c'est la même chose, il s'agit avant tout de se perpétuer. Mais alors il y a une phrase de Beaumarchais que j'aime bien. Elle est un peu, comment dire, impertinente, cette phrase. Elle dit « Boire sans soif et faire l'amour en toute saison est la seule chose qui nous distingue des bêtes. » Je crois que c'est dans le Mariage de Figaro. Hein. Bon, donc l'homme a quand même une part de liberté, si vous voulez. Hein. L'animal ne boit que quand il a soif et il est poussé par le génie de l'espèce à se perpétuer à certaines saisons. Or l'homme s'est détaché de cela, vous voyez. Hein. Donc voilà. Alors, lorsque dans un couple arrivent les enfants, alors deux cas peuvent se présenter, et ces deux cas sont aussi catastrophiques l'un que l'autre. Si, du moins, les caractères des deux membres du couple ne sont pas en phase, et si déjà, pour cette raison, quelques fissures ou quelques mésententes se sont manifestées entre eux. Alors, d'une part, considérons la femme, connaissant la maternité, il arrive que la femme peut vouloir résolument changer de sphère, passer d'un monde à un autre, et se rabattre, entre guillemets, uniquement sur son nouveau rôle. Alors elle va négliger son compagnon, et l'enfant va être l'objet de toutes ses attentions, et cela est d'autant plus tentant pour elle que, comme on l'a déjà dit, l'enfant est petit, et comme il est petit, il ne peut pas résister à l'instinct de possession de sa génitrice. Alors là, maintenant, j'en viens, Redouane, à votre Phédo, que vous avez cité en commençant. On voit un parfait exemple de tout cela dans le théâtre de Phédo. La mère prend toujours le parti de son enfant contre le père. Par exemple, dans « On purge bébé », le père est anéanti et bon, ce bébé capricieux, bébé c'est un enfant quand même de 8-10 ans, hein, voilà. Il gouverne sa mère, justement, sa mère est à ses petits soins. Hein. Ou bien encore dans la pièce « Mais ne te promène donc pas toute nue », où l'héroïne, qui est mère, dit que la chair de ma chair voit ma chair, quel mal y a-t-il, vous voyez? Alors, le pauvre mari, lui, il est relégué aux oubliettes. Alors, il est tenté par l'adultère, mais alors, il voit se dresser devant lui énormément d'embûches, c'est la trame de toutes les pièces de Georges Feydeau, et plein de catastrophes proviennent de cette tentation de l'adultère. Et finalement, tout ce théâtre va s'échafauder sur une constante frustration pour les deux parties, la femme et le mari. En apparence, ce théâtre est comique et effectivement, il est désopilant quand on y assiste. Mais dans le fond, il est fondamentalement tragique, je dirais. Hein. Il est fou aussi, d'ailleurs je crois que Georges Feydeau a terminé par la folie, il a été interné pour folie, hein. Donc vous connaissez l'ambiance, les portes claquent, c'est un vaudeville, etc., le mari, donc la maîtresse ou pseudo-maîtresse, ou voilà. Mais dans le fond, si on regarde les rapports du couple, c'est extrêmement terrorisant, hein. Que la femme prenne son enfant comme un rempart contre son mari, ça me semble assez problématique. Alors, prenons le côté de l'homme. De son côté, l'homme, il peut céder à sa propension naturellement nomade, et il peut se lasser définitivement de sa compagne une fois que celle-ci est devenue mère, et il peut ne plus vouloir la considérer comme telle, comme une amante ou comme sa femme, ne plus lui manifester de désir au mépris de ses désirs profonds, parce qu'il arrive que certaines femmes ont une nature ardente et passionnée, et une femme ne veut pas être réduite à son rôle de mère, elle veut rester une amante, elle ne veut pas être négligée, si vous voulez. Hein. Alors ce qui se passe, c'est que très souvent, le père voit dans la survenue de ses enfants sa propre fin, hein. C'est-à-dire il va être détrôné en vertu de ce que Freud appelle le complexe d'Œdipe, hein. C'est-à-dire que tout homme voit, mettons, dans son fils son propre assassin, en quelque sorte, hein. Quelqu'un qui va lui prendre sa place, d'où la jalousie vis-à-vis du fils. Je vous vois hocher la tête et donne par acquiescement. C'est vrai, c'est tragique ça. Dans le film de Pasolini, Œdipe roi, hein, la premier plan, c'est un gros plan sur le visage du père d'Œdipe, et on voit la haine peine, hein, vis-à-vis de ce bébé qui est dans le berceau, parce qu'il voit plus tard quelqu'un qui va le tuer. Alors, je sais pas, c'est trop tragique, Redouane, ça
c'est... C'est une réalité, c'est une photographie d'une réalité que vous dites là, Michel, et c'est vrai que c'est le drame de certains couples.
Ah oui.
Se révèlent les fissures au moment des naissances.
Au moment des naissances des enfants, absolument.
Ou c'est une grossesse désirée des deux, parce que l'affection, l'amour du couple voit aboutir, l'aboutissement dans la naissance, ou c'est le révélateur, comme dans une photographie, c'est le révélateur des fissures.
Voilà, d'une fissure. Alors, quel conseil peut-on donner? Quelle leçon peut-on tirer de tout cela? Je pense que si dans un couple d'amants surviennent des enfants, il faut impérativement que les parents ne se cantonnent pas dans leur rôle de parents, hein. Mais il faut qu'ils restent des amants ou des amoureux toujours attentionnés l'un pour l'autre, hein. Alors, je sais bien, c'est sans doute plus difficile pour une mère que pour un père, car le lien naturel aux enfants est plus fort chez la mère que chez le père, hein. Mais enfin, hommes et femmes doivent tous deux ensemble protéger leur intimité. Et je dirais que les enfants eux-mêmes s'en trouveront bien, car au-delà de leur égocentrisme natif, il est important pour les enfants, surtout quand ils grandissent, de sentir que leurs parents s'aiment, car les parents sont toujours, malgré les hostilités provisoires qu'ils peuvent leur manifester dans leur adolescence, la crise de l'adolescence des enfants, hein, qui se dresse contre les parents seront toujours quand même des modèles à imiter pour plus tard, pour quand ils seront adultes, vous voyez. Donc je crois que, même topographiquement, dans une maison, il est nécessaire que la chambre des parents soit bien séparée de celle des enfants et que les enfants n'y est pas toujours accès, vous voyez, il me semble.
Oui, tout à fait.
Bon, c'est tout simple. Oui. Hein, rester quand même amant, même si vous êtes parent, hein, ça me semble fondamentalement un conseil à donner. Alors, j'ai choisi comme première virgule musicale une belle chanson de Reggiani qui est tragique puisqu'elle pose ce problème de la mésentente entre le mari et la femme lors de la survenue des enfants ou consécutivement la survenue de ses enfants. Ça s'appelle Mon petit garçon.
Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux, on va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls. Ce soir, elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, il pleut dans ma mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il fait un peu froid ce soir. Une histoire de gens qui s'aiment, une histoire de gens qui s'aiment. Tu vas voir, ne t'en va pas. Ne me laisse pas. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux, perdus parmi les choses, dans cette grande chambre. seul. On va jouer à la guerre et tu t'endormiras. Ce soir il ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires, il était une fois, je n'ai plus de mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il est un peu tard ce soir, l'histoire de gens qui s'aimaient et qui jouèrent à la guerre. Écoute-moi, elle n'est plus là. Non, ne pleure pas.